France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Israël avait prévenu, il y aurait riposte après l'attaque iranienne contre son sol. A-t-elle commencé cette nuit ? Explosion signalée dans le centre de l'Iran. Le régime parle de drones, mais pas de missiles et de conséquences minimes. Situation très confuse ce matin, notamment sur l'ampleur de cette réponse potentielle. D'autant que personne ne parle officiellement pour l'instant. Nous essayerons d'y voir plus clair avec nos correspondants en Israël et à Téhéran. Dans ce journal aussi, l'inquiétude des juges des enfants après les annonces du Premier ministre contre la violence des mineurs. Ils redoutent la remise en cause de l'excluse de minorité qui aujourd'hui atténue les peines pour les moins de 18 ans, vous les entendrez. Et on y revient aussi à 8h20, Ali.
Avec l'un des grands spécialistes du sujet à 8h20, l'invité du grand entretien sera Laurent Nunez, préfet de police de Paris, après les annonces du Premier ministre sur l'autorité et évidemment à l'approche des Jeux Olympiques dans la capitale, J-100.
À suivre aussi cette curieuse affaire corse, un diacre mis en examen, soupçonné d'avoir géré une maison de retraite illégale. La Catalogne contrainte de dessaler l'eau de mer face à la sécheresse. Et l'OM en demi-finale de la Ligue Europa de foot. Nouvelle surprise française sur les terrains de foot européens.
France Inter.
Il était un peu plus de 4h du matin, heure de Paris, quand les médias officiels iraniens ont d'abord annoncé de fortes explosions dans le centre du pays, puis signalé des drones abattus par la défense antiaérienne iranienne. 4h plus tard, difficile encore d'interpréter ce qui ressemble à un début de riposte israélienne après l'attaque menée par l'Iran samedi dernier contre l'État hébreu. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant au Proche-Orient, Thibault. Alors que sait-on à l'heure où l'on se parle des événements de la nuit ?
Eh bien, ce que l'on sait, c'est qu'une base militaire a été visée selon les autorités iraniennes. 3 explosions entendues à Kadjavaristan, c'est dans la région d'Ispahan, c'est au centre du pays. La défense antiaérienne a été activée et des drones ont été abattus. Pour le moment, les dommages semblent limités. Pas de réaction du côté israélien, mais les États-Unis affirment ce matin qu'ils ont été avertis par leurs alliés sans pour autant avoir approuvé, ce qui ressemble clairement à la riposte de l'attaque de samedi dernier. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si Washington a prévenu Téhéran, en passant bien sûr par des intermédiaires, de l'imminence de la réponse de l'État hébreu. Ce matin, l'Iran minimise, Israël se tait, et un signe qui laisse penser que l'attaque est terminée. Les vols ont repris depuis les aéroports de Téhéran.
Alors est-ce que Thibault, est-ce qu'il faut y voir forcément le début de l'escalade tant redoutée dans la région ?
Non, ce n'est une surprise pour personne, Alexis. Le cabinet de guerre israélien avait très vite décidé de répliquer après l'attaque iranienne de samedi dernier. Restait à déterminer le calendrier et les modalités. Israël aurait donc choisi une attaque ciblée, limitée sur des infrastructures militaires. Une attaque symbolique aussi, puisque c'est aujourd'hui l'anniversaire du guide suprême Ali Khamenei, mais qui laisse surtout la place à une sortie de crise négociée. Œil pour œil, dent pour dent donc, avec au cœur de cette riposte le respect d'une règle fondamentale en Israël, la dissuasion. Depuis 1948 et la création de l'État hébreu, aucune agression subie n'a été laissée sans réponse. Israël doit faire peur pour faire passer l'envie à ses ennemis de l'attaquer. C'est le contenu du message ce matin, alors que pour le moment, que ce soit du côté iranien ou du côté israélien, personne ne souffle sur des braises encore chaudes.
Thibault Lefebvre au Proche-Orient pour Inter. Merci Thibault. Ce matin, des frappes israéliennes sont aussi signalées sur une position militaire située dans le sud de la Syrie. Vous le disiez, quel rôle ont joué les États-Unis qui, on le sait depuis le week-end dernier, tentaient de convaincre Israël de ne pas riposter. Selon des hauts responsables américains, Washington a bien été prévenu de cette contre-attaque, mais ne l'a pas approuvée. Ce matin, l'ambassade américaine en Israël restreint les mouvements de son personnel. L'Australie recommande, elle, à ses ressortissants de quitter le pays. Et à Téhéran, comment réagit-on ce matin ? Siavosh Ghazi, bonjour.
Bonjour.
Correspondant d'Inter en Iran, le régime iranien minimise très fortement l'impact des frappes de la nuit.
Désormais, les médias et les officiels iraniens démentent toute attaque contre l'Iran depuis l'extérieur. Un porte-parole de l'armée a même affirmé que les bruits d'explosions entendus ce matin à Ispahan étaient dus à l'entrée en action du système de défense anti-aérien contre des objets volants suspects. Dans la bouche des Iraniens, cela désigne des heli-shots ou des quadcoptères. Dans un premier temps, les médias avaient rapporté une forte explosion munitions dans les alentours de la ville et 3 petits objets volants par la défense antiaérienne. La télévision iranienne diffuse également en direct des images de plusieurs places et endroits à Isfahan où on voit une circulation automobile normale et des habitants se promener le long du fleuve Zayanderoud. Isfahan et sa province abritent les principales bases nucléaires du pays, avec notamment l'immense usine d'enrichissement de Natanz. Les autorités ont également annoncé la réouverture des aéroports de Téhéran et d'Isfahan, dont les activités avaient été suspendues provisoirement. Ainsi donc, pour Téhéran, il ne s'est rien passé et il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle attaque contre Israël, comme l'avaient promis différents responsables iraniens qui avaient affirmé qu'en cas d'attaque israélienne, la réponse de l'Iran sera beaucoup plus sévère.
Siavosh Ghazi à Téhéran et quasi immédiatement cette nuit, les cours du pétrole ont réagi en prenant plus de 3% sur les marchés asiatiques. Quelques heures plus tôt, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la demande d'adhésion palestinienne aux Nations Unies. Aujourd'hui, l'État palestinien ne bénéficie que d'un statut d'observateur. Sans surprise, les États-Unis ont mis leur veto. D'ailleurs, seuls les Américains ont voté contre. Colère de l'autorité palestinienne qui y voit une agression flagrante poussant le Moyen-Orient au bord du gouffre.
8h07. Alexis, la Palestine, justement, c'était le thème de la conférence que Jean-Luc Mélenchon voulait tenir à Lille hier soir.
Mais après l'université, c'est la préfecture qui a interdit sa tenue dans une salle de la ville. C'est donc finalement sur une place publique lilloise qu'il a rassemblé ses militants et l'insoumis de fustiger une incroyable violence politique avec à ses côtés la militante franco-palestinienne Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste LFI. Arthur Fradin.
Devant plusieurs centaines de militants insoumis, communistes ou franco-palestiniens chauffés à blanc et acquis à sa cause,
merci d'être ici nombreux et nombreuses.
Rima Hassan est la première à monter à la tribune.
La censure et l'arme de ceux qui ont déjà perdu.
Elle regrette de ne pas pouvoir débattre sur la Palestine comme elle devait le faire.
Et j'espère surtout qu'on aura d'autres occasions parce qu'on va se battre autant que possible. Je vais finir sur cette injonction de Stéphane Hessel. Indignez-vous.
Jean-Luc Mélenchon ne se fait pas prier.
Qui méritait cette opprobre ?
Le tribun de la France Insoumise discourt pendant près d'une demi-heure.
Des gens de toutes opinions disent ça va trop loin. On interdit maintenant à des gens dans une salle privée de tenir une réunion. Enfin, c'est la France, normalement. C'est la liberté.
Il interpelle directement Emmanuel Macron, dont la réaction en fin de journée pour défendre la liberté d'expression a selon lui beaucoup traîné.
Alors monsieur le président, qu'est-ce que ça vous coûtait de prendre votre téléphone et dire écoutez, le préfet vous vous êtes trompé, ça arrive, ça ne demandait qu'un coup de téléphone.
Un référé liberté a été déposé par le député du Nord Hugo Bernalicis, objectif faire annuler l'arrêté préfectoral pris salle de l'Impérial, même a posteriori, pour que ce genre d'interdiction ne se reproduise pas.
Arthur Fradin à Lille. Contre la violence des mineurs, Gabriel Attal enfonce le clou. Lui qui a promis hier matin une contre-attaque républicaine a dénoncé dans la soirée sur BFM un entrisme islamiste qui va croissant. Des groupes plus ou moins organisés qui, je cite, prônent les préceptes de la charia, notamment à l'école. Le Premier ministre lance une concertation tous azimuts sur la base de plusieurs propositions. Celle qui fait peut-être le plus parler, c'est cette possible remise en cause de l'excuse de minorité devant les tribunaux. Aujourd'hui, les peines sont divisé par deux pour les mineurs, mais des dérogations exceptionnelles sont déjà possibles. Il ne faut surtout pas aller plus loin, lui répond ce matin Alice Grunenwald, juge des enfants et présidente de l'Association des magistrats de la jeunesse et de la famille.
Un des grands principes de la justice des mineurs, c'est l'atténuation de la responsabilité en fonction de l'âge. C'est lié évidemment au développement du cerveau du mineur, aux spécificités de l'adolescence. Quand on a entre 13 et 18 ans, on n'a pas encore ses pleines capacités de contrôle des émotions, ses pleines capacités de raisonnement et de réflexion. Donc c'est important qu'il y ait une atténuation de la responsabilité qui prenne en compte ses facultés de discernement et en même temps le dispositif est assez équilibré puisque pour les plus de 16 ans, il est déjà possible d'écarter, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, d'écarter ce principe d'atténuation des peines. Donc il y a déjà une dérogation qui est prévue. On est sur un pourcentage très faible, mais qui existe quand même. Et notamment à la cour d'assises, où c'est quand même quelque chose qui est débattu.
Alice Grunenwald de l'Association des magistrats de la jeunesse, elle répondait à Sarah Guibaudot. Le Premier ministre qui dénonce un acte de barbarie après la mort de Philippe, 22 ans, à Grande-Synthe, violemment agressé dans la nuit de lundi à mardi. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a été piégé, victime d'un guet-apens via une appli de rencontre. C'est ce qu'a reconnu en tout cas l'un des deux suspects en garde à vue. Des adolescents de 14 et 15 ans, ils doivent être présentés ce matin à un juge d'instruction. La famille famille de la victime organise une marche blanche aujourd'hui dans les rues de cette commune du Nord. Deux policiers municipaux mis en examen pour violence à Bourges, dans le Cher, après un accident de scooter suite à un refus d'obtempérer lundi soir. Le conducteur du deux-roues est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Les policiers avaient cessé leur poursuite quand le scooter a percuté un poteau, mais ils ont reconnu avoir lancé un peu plus tôt une bombe lacrymogène dans sa direction. Un homme d'église mis en examen est placé sous contrôle judiciaire en Corse pour blanchiment de fraude fiscale et travail dissimulé. Ce diacre, très connu sur l'île, ancien aumônier de la prison de Borgo, est soupçonné d'avoir géré pendant des années une maison de retraite clandestine. Emmanuel Leclerc, ce sexagénaire disposait apparemment de moyens financiers conséquents.
Pierre-Jean Franceschi était jusque-là surtout connu pour ses homélies lors des funérailles d'Ivan Colonna ou celle d'Edmond Simeone, l'un des pères du nationalisme corse moderne. Durant sa garde à vue, l'ancien aumônier de la prison de Borgo a reconnu, selon le procureur de Bastia, qu'il accueillait à titre onéreux des personnes âgées dans sa demeure de Panta di Casinca, l'un des très beaux villages perchés de Haute-Corse. Mais on n'en sait pas plus sur les 350 000 euros retrouvés sur ses comptes en banque, selon une source proche du dossier, et sur les revenus qu'il pouvait retirer de la location de plusieurs chambres et appartements au nom de plusieurs sociétés et qui pouvaient accueillir près d'une dizaine de pensionnaires. C'était autour de 1500 euros par mois en pension complète et évidemment hors taxe, dont les pensionnaires ne se sont jamais plaints. Et quand il le fallait, des infirmiers ou des infirmières étaient appelés pour venir s'en occuper. Tout le monde était au courant, sauf la famille de cette nonagénaire il y a 3 ans qui a déménagé sans rien dire, signalement pour une disparition inquiétante et enquête sur cette maison de retraite clandestine qui fonctionnait sans agrément et loin du fisc.
Risque de pagaille ce matin en région parisienne sur les routes puisque l'autoroute A13, un axe stratégique, est fermée dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson dans les Hauts-de-Seine pour une durée indéterminée. C'est lié à des problèmes repérés sur la chaussée entre le viaduc et le tunnel de Saint-Cloud à l'approche de la capitale.
Près d'un milliard d'électeurs appelés aux urnes, Alexis.
1 million de bureaux de vote, 6 semaines de scrutin hors normes, ces élections législatives qui viennent de débuter ce matin en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi est presque assuré d'un troisième mandat à l'issue des résultats. Ce sera le 4 juin. Face à lui, l'opposition est morcelée, visée par de multiples enquêtes judiciaires. Elle appelle ce matin les électeurs à mettre fin, je cite, à la haine et l'injustice. Depuis l'arrivée au pouvoir de Modi, les défenseurs des droits humains pointent le recul de certaines libertés démocratiques, mais aussi des droits des minorités. C'est une première en Europe. En Espagne, la Catalogne, qui vit sa pire sécheresse depuis un siècle, va dessaler l'eau de mer pour subvenir aux besoins de la population de Barcelone. Une usine flottante doit être installée dans le port de la capitale catalane. Solution d'urgence qui ne résoudra pas tout, loin de là. Mais les Catalans n'ont plus vraiment le choix. Sur place, Henri de Laguéry.
Qu'il pleuve ou non, on ne verra pas de bateaux remplis d'eau en provenance de Marseille ou de Valence dans le port de Barcelone. Les autorités locales vont finalement faire appel à une usine flottante de dessalement, a annoncé hier David Mascort, c'est le ministre catalan de l'Environnement.
C'est une solution moins coûteuse que les bateaux avec une meilleure sécurité d'approvisionnement. On garantit à tout le monde un accès à l'eau potable, même si l'eau ne tombe plus du ciel.
L'usine flottante installée sur un immense cargo sera opérationnelle dans le port d'ici octobre prochain. 40 000 mètres cubes d'eau pourront être produits chaque jour. C'est 6% de la consommation quotidienne de la ville. Mais c'est une solution très provisoire qui ne résout pas grand-chose, dénonce la maire adjointe de Barcelone pour Laia Bonet. Les indépendantistes qui dirigent la région n'ont pas su anticiper les effets du réchauffement climatique.
Ce sont des décisions qui doivent être prises car rien n'a été fait pendant 10 ans. Cela renvoie donc une très mauvaise image aux touristes qui nous visitent comme à nos habitants.
Le nord de la Catalogne, à la frontière des Pyrénées-Orientales, est également en situation critique. 12 petites stations de dessalement mobile seront installées d'ici l'été afin de garantir l'approvisionnement de la Costa Brava.
Henri de Laguéry à Barcelone pour Inter. L'eau qui manque cruellement aussi en Colombie, à tel point que les fonctionnaires doivent rester chez eux aujourd'hui. Comme en Équateur voisin, les autorités décrètent un jour chômé pour tenter d'économiser eau et électricité. Le pays fait face à une sécheresse historique qui a vidé ses réserves, pourtant indispensable à la production d'énergie. L'eau est déjà rationnée à Bogota et les autorités appellent les habitants de la capitale à la quitter ce week-end pour réduire la pression sur le peu de ressources qu'il reste.
Sport, après le PSG, l'OM déjoue les pronostics à son tour sur la scène européenne.
Oui, les Marseillais ont décroché hier soir leur ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa aux dépens du Benfica. Ce n'était vraiment pas gagné après leur défaite à l'aller, mais le Vélodrome les a portés. Victoire 1-0 en prolongation, puis au tir au but.
L'OM affrontera Bergame le mois prochain. À la sortie du stade, Philippe Randé, les 65 000 supporters marseillais avaient encore du mal à réaliser.
Il est 1h du matin et autour du stade Vélodrome, Marseille ne veut plus s'arrêter de klaxonner. Au milieu des fumigènes, chacun tente de trouver les mots.
On est mort. On est mort, on a tout donné. Moi, j'ai plus de voix.
Clairement, c'est une saison galère. Et là, la Coupe d'Europe, ça fait du bien. Et clairement, Marseille, la Coupe d'Europe, bah, c'est une histoire d'amour. Hein. On va pas se mentir, c'est une vraie histoire d'amour.
Qu'est-ce qu'on ressent sur le tir au but ?
Le bruit du dernier pénalty de Luis Enrique, c'est incroyable, c'est quelque chose. Je pense qu'à l'autre bout de Marseille, ils ont entendu le stade péter, quoi. C'est énorme.
Une victoire au forceps avec une équipe diminuée par de nombreuses blessures, une équipe à la peine en championnat, ce qui rend la qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa encore plus belle pour Dorient.
Franchement, là, aujourd'hui, il y a eu des vaillants, ils étaient déterminés sur le terrain et c'est ce qui nous a rendu heureux ce soir. Et là, on rentre à la maison, plus personne n'a de voix. Et au final, on est heureux, on va bien dormir pour une fois.
Bien dormir et rêver d'une qualification face à l'Atalanta Bergame les 2 et 9 mai prochains, avec un objectif, atteindre une finale de Coupe d'Europe pour la 6e fois dans l'histoire de l'OM.
En revanche, c'est fini pour Lille en Ligue Europa Conférence, le LOSC sorti par les Anglais d'Aston Villa.
Merci, c'était le journal d'Alexis Morel. Tout de suite, la météo de ce vendredi 19 avril.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Camille Esnault, le temps se dégrade, sauf dans le sud.
Et oui, la pluie arrive par la Manche vendredi avec quelques gouttes qui se baladent déjà de la Bretagne au Grand Est. En passant par la Normandie et la région parisienne, de la Champagne au Jura, la pluie est plus soutenue. Cet après-midi, elle se décale vers l'Est et concernera la Marne, les Vosges et le Jura. Au sud, c'est du soleil avec du vent, tout de même 60 km/h en rafale. Pour la Manche et le Grand Est, 50 km/h.
Dégelée pour débuter la journée.
Elle concerne les plaines du sud-ouest et de l'Auvergne jusqu'au Jura. Il gèle par endroits ce matin, moins 1 du côté de Montluçon ou encore Annecy. 1 degré à Périgueux, 2 à Épinal, 4 à Rennes, 8 à Paris et à Lille, 10 à Nice. Cet après-midi, légère hausse sur une moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes avec 13 à 18 degrés. Du nord Pas-de-Calais au Grand Est, on attend 8 à 13 degrés jusqu'à 23 pour la partie sud du pays.
Merci Camille Esnault. Il est 8h18, géopolitique.